Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le titre pour aujourd'hui, c'est Jésus, Père éternel et Prince de la paix. Et je vous rappelle qu'il y a quelques années, j'avais entendu quelqu'un qui parcourait des livres chrétiens dans une librairie et il disait qu'en fait, les livres parlaient de toutes sortes de sujets, mais étaient des fois étonnés que le sujet principal ne soit pas davantage Jésus. On parle de toutes sortes de choses de la vie chrétienne, mais il nous faut des fois rappeler que il est le centre de ce que nous voulons vivre en tant que chrétiens, avoir nos regards fixés sur lui. Et en même temps, je voudrais tout de suite mettre une petite correction à ça. C'est que lui, il est venu pour nous conduire au Père, pas pour nous conduire seulement à lui-même. Il a dit « Je suis le chemin, je suis la porte, et nul ne vient au Père que par moi. » Donc c'était pour nous conduire au Père. Mais c'est important que nous ayons aussi des temps dans notre vie personnelle, de prière, des temps dans notre vie de culte. On ne soit pas juste en train de chanter les uns pour les autres. Des fois, il y a beaucoup de chants chrétiens, même dans un culte, qui sont en fait des chants destinés à l'évangélisation, ce qui peut être pas mal du tout, soit pour nous motiver à évangéliser, ou si quelqu'un ne connaît pas réellement le Seigneur au milieu de nous. Mais donc, ce n'est pas forcément le but principal. Donc, on peut aussi faire beaucoup de chants où on s'encourage les uns les autres à profiter de telle ou telle chose de la vie chrétienne, être dans la joie, avoir la consolation, du courage, je ne sais quoi encore. Donc, toutes ces choses sont bonnes, mais à un moment donné, il est bon aussi d'équilibrer notre vie chrétienne en ayant nos regards sur lui et nous regardant ce que lui a fait, ce que lui veut nous dire, ce que lui voudrait encore accomplir au travers de nous. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire ce matin. Et donc, mon introduction, c'est « Venez à Jésus car il s'est approché de vous au travers. » Donc, il vient chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, c'est Dieu qui vient à nous parce qu'il est la parole vivante. Donc, attendez-vous, comme dit notre ami Rick Renner, attendez-vous à recevoir aujourd'hui quelque chose de tout nouveau de la parole de Dieu. Parce qu'il y a toujours un renouvellement, elle est vivante, donc je ne sais pas, oh, je connais déjà. C'est à chaque fois, il y a nouveau quelque chose qui va maintenant être tout neuf, comme si je l'avais peut-être jamais entendu ou compris. Donc, attendons-nous à ça. Matthieu 11, on va prendre verset 25 et suivant. Il peut y avoir des paroles qui semblent très simples, mais que finalement, pour nous, autant la vie humaine que la vie chrétienne, elle n'a pas besoin d'être compliquée. Elle peut être très simple. Alors, Matthieu 11, 25 à 30, il nous est dit, en ce temps-là, il y a un temps, il y a un moment fixé par Dieu. Et ce moment, il est très simple. Pour nous, la plupart du temps, c'est aujourd'hui, c'est le présent. Je l'ai partagé avec les personnes qui étaient avec nous dans la réunion de prière, j'ai partagé que j'ai découvert sur la présentation sur Internet de quelqu'un. Il a mis une citation, il a dit « L'avenir nous inquiète, le passé nous retient et le présent nous échappe. » J'ai dit « Cette personne a vraiment besoin de la grâce de Dieu. » Mais nous pourrions dire la chose suivante, pour nous c'est l'avenir ne nous appartient pas, c'est demain. Le passé, on ne peut plus le changer, mais nous vivons dans le présent. Et le présent, c'est ce qui nous intéresse. Donc, en ce temps-là, nous avons maintenant un temps où Jésus prend la parole. On pourrait dire qu'il prend du temps pour nous, et voilà ce qu'il nous dit. D'abord, il nous montre quelle est sa relation qu'il a avec le Père. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses, aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » C'est intéressant parce que il y a des éléments qui sont pour nous intéressants d'étudier, par exemple la prière qu'on appelle notre Père, mais c'est intéressant pour nous de suivre Jésus dans la façon dont il s'exprimait par rapport à son Père, dans la façon dont il priait. Là, une prière spontanée, il n'y a rien, il n'y a pas une forme, il n'y a pas une espèce de rigidité. Il y a une expression spontanée de la louange, de ce que, qui animait le Seigneur Jésus au moment où il a réalisé ça. Il a dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il voyait les gens religieux de son temps qui ne comprenaient rien à ce qui était en train de se passer. Et à côté de ça, il voyait cette foule de gens de toutes sortes qui n'étaient pas toujours comme il faut, mais qui saisissaient les choses de la vie éternelle et dit, tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et maintenant vient cette parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et là, je dis que de temps en temps, il nous arrive à tous, on prend un petit morceau de la Bible, un verset par-ci, par-là, ça nous fait du bien, on l'applique à une situation, mais il est bon aussi de voir des fois les choses dans leur ensemble. Vous voyez, nous avons souvent fait un découpage, nous avons dit, quand ça va mal, quand je suis fatigué ou chargé, allez, je prends Matthieu 11, 28, comme si c'était un médicament, je prends tel cachet. Mais finalement, c'est mieux, je dirais, de le prendre dans son ensemble, où nous recevons davantage de Dieu en tant que personne. Comme quelqu'un l'a dit, il faut chercher la face de Dieu plutôt que sa main. Il faut chercher lui-même. Et si on l'a lui-même, on a tout ce qu'il a et ce qu'il nous donne, plutôt que de ne chercher que à posséder quelque chose qu'il pourrait nous donner. Et donc, quand on a cette relation avec lui-même, on a aussi ce qui en découle. Donc, une fois que vous avez découvert ce Jésus que j'ai nommé dans le titre Père éternel, Prince de la paix, vous avez aussi tout ce qui va avec. Et il est intéressant d'ailleurs que nous parlons de Jésus en tant que fils, mais que prophétiquement il a été annoncé comme Père éternel. Donc il y a quelque chose à découvrir de notre part dans cette circonstance. Donc j'ai souligné dans mon texte aussi plusieurs verbes dans ce venez à moi. Donc il y a le venez, nous avons des choses à faire. Venez. Ensuite il est dit prenez mon joug. Ensuite il est dit recevez mes instructions. Et ensuite il est dit vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc on a plusieurs verbes d'action, il y a quelque chose à faire. Venir, prendre, recevoir. Parce que certains voudraient que Dieu en fasse encore plus. Il a déjà beaucoup fait, mais on a l'impression qu'il n'en fait pas assez. Même ceux qui n'ont aucune connaissance de Dieu, disent « mais Dieu ne fait rien. Il ne voit pas la situation du monde, regardez dans quel état on est, mais qu'est-ce qu'il fait ? On a l'impression qu'il est indifférent ou alors c'est la preuve qu'il n'existe pas. Mais nous devons réaliser combien il a accompli, et que nous puissions aussi comprendre où s'arrête la part de Dieu et où commence notre part. Alors, je vous propose de parcourir dans la parole de Dieu quelques histoires, des histoires vraies d'ailleurs, où nous voyons quelle était la part de Dieu et quelle était la part de l'homme. Le mendiant aveugle Bartimée dans Marc 10, par exemple. Peut-être pour certains, ça, les choses que je vais dire vous sembleront évidentes. Mais je suis persuadé qu'il y a des raisonnements qui sont en nous, on va dire maintenant globalement en nous, qui font qu'on pense de la mauvaise façon. Et on attend encore des choses de Dieu, et on ne fait pas certaines choses que nous avons à faire. Et je crois que c'est ça qui nous complique l'existence. Il y a des choses que Dieu seul peut faire, que nous essayons de faire. Et à l'inverse, il y a des choses que nous avons à faire et que nous attendons que Dieu les fasse. Ça vous semble peut-être simple, mais je crois que c'est simple. C'est simple dans ce sens. Alors, il nous est dit, ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi !» Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se levant en bon, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussi il recouvra la vue, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc regardez bien à cette histoire. On pourrait dire que dans un premier temps, Jésus n'a pas été jusqu'au bout. Il est passé devant l'aveugle. Si on avait juste regardé instantanément ce moment, Jésus passe et l'aveugle est assis au bord du chemin, quelqu'un aurait dit, c'est parce qu'on regarde l'histoire à courte échelle, Jésus est indifférent. Il ne s'intéresse pas à cet homme. Il ne voit pas sa souffrance. N'est-ce pas vrai? C'est ça qui est, on regarde juste un morceau de l'histoire. C'est ce que les gens font autour de nous. Ils regardent la situation de maintenant. Quelle est la situation du monde maintenant? Et ils disent, que fait Dieu? Et pour nous, en fait, il faut qu'on commence à avoir un panorama large de ce qu'est Dieu. Et lui, on ne peut pas le réduire dans un tout petit morceau de l'histoire. Parce qu'il est beaucoup plus grand que l'histoire humaine. Il est le Dieu de toute éternité. Donc, il faut que nous comprenions ce qu'il a fait depuis le début jusqu'à la fin, et même de plus loin que cette histoire. Parce que, rappelez-vous, en moment, dans Matthieu, quand il voyait tous les miracles que Jésus accomplissait, et il disait, ce que vous voyez ici, c'est la réalisation de ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. C'est dans Matthieu 8, vous savez, il nous a dit, voici ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Ésaïe l'avait annoncé dans son chapitre 53, il avait dit, voilà, il va se charger nos maladies, porter nos douleurs, nos souffrances. Et Matthieu 8, il dit, voilà ce qui est en train de se réaliser. Et 1 Pierre 2, 24, nous dit, voilà ce qu'il a fait dans le passé. Donc, il est nécessaire pour nous qu'on ait l'image de ce que Dieu fait dans son ensemble. Et ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, voilà, c'est quelqu'un, il souffre, mais les gens étaient habitués à ce qu'il y ait des mendiants. Ça faisait partie du panorama, je suis désolé. Il n'y avait pas de compassion particulière. Certains peut-être le jetaient à une pièce, mais personne n'imaginait que la vie d'une personne comme ça pourrait être transformée. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, ça veut dire qu'il y aura toujours des gens qui sont sur le bord du chemin. Donc ils étaient habitués à ça. En général, on avait aussi un jugement à leur égard. S'ils sont dans cet état, certainement qu'ils l'ont mérité. D'une façon ou d'une autre, ils n'ont que ce qu'ils méritent. C'était la mentalité ambiante, et il n'y avait pas beaucoup de compassion. Il n'y avait que Jésus pour apporter une révolution de la compassion en étant ému de compassion pour les foules, pour les gens qui souffraient. Mais sinon, apparemment, on voyait beaucoup d'indifférence. Des fois, dans l'histoire du bon samaritain, on raconte, voilà, le sacrificateur et le lévite, c'était des gens qui étaient indifférents, c'était des gens religieux, mais pourtant ils n'aidaient pas celui qui était au bord du chemin. Il n'y a eu que ce Samaritain pour aider. La réalité, c'est on ne se pose même pas la question est-ce qu'ils avaient de la compassion ou non. C'est que leurs principes et leurs dogmes étaient au-delà de leurs sentiments. Un sacrificateur ne pouvait pas toucher quelqu'un qui était blessé et peut-être mort. Ça le rendait impur. Sa religion lui interdisait même d'aider la personne. C'est là que Jésus est venu en disant « Je suis venu accomplir la loi. On va aller au-delà. On va montrer la miséricorde et pas seulement la stricte observance. » Et donc, dans ce sens, il arrive, il passe près de ce mendiant et on peut dire qu'il a fait le plus grand chemin. Il nous est aussi dit qu'il est sorti de Jéricho. Jéricho n'avait pas une bonne réputation. Jéricho, c'est l'endroit qui a été pris une première fois par le peuple d'Israël. Hein, vous savez, les murs de Jéricho sont tombés et tout ça. C'était la forteresse de Canaan, si vous voulez. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël est rentré dans la terre promise en remportant la victoire à Jéricho. Josué avait maudit la ville, a dit « Celui qui va reconstruire la ville, et il le payera au prix de ses fils. Le plus, l'aîné et le plus jeune va mourir à cause de ça. Donc il y avait une malédiction sur Jéricho. Et encore du temps de Jésus, Jérusalem, c'était la ville où habitaient les gens bien. Et Jéricho, c'était l'endroit, on pourrait dire maintenant, c'est le ghetto, c'est le mauvais endroit du coin. Et donc, tout cela est symbolique et a son importance. Et il nous est dit, pourtant, Jésus est allé aussi à Jéricho. Et donc, il était prêt à aller plus loin. Mais à ce moment-là, Bartimée avait quelque chose à faire. On peut dire, Jésus est venu, il a affronté les préjugés, il est allé jusqu'à Jéricho, il est passé près de l'aveugle, il a entendu parler de lui, et maintenant c'était à lui, on peut dire entre guillemets, de déclencher son propre miracle. Il fallait que sa foi soit éprouvée de ce qu'il avait entendu de Jésus, est-ce qu'il allait le croire ou non, que c'était possible, que sa vie soit changée. Et Jésus lui dit au verset 52, ta foi t'a sauvé. Donc à un moment donné, il a eu cette confiance en Dieu que quelque chose est possible. Il a cru à l'incroyable, que sa condition pourrait changer. Mais il avait quelque chose à faire. Vous voyez, il avait. Les autres ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il fallait qu'il se lève, il fallait qu'il aille là-bas. Il a jeté son manteau, il se leva d'un bond, il a traîné les pieds, il vint vers Jésus. Vous vous rappelez, on a lu tout à l'heure, venez à moi. Il y a une part qu'il a faite. Quand Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il n'a pas discuté, il a dit, c'est évident. Il a exprimé ce qu'il voudrait réellement. Il n'a pas dit, je voudrais de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins ou payer quelqu'un qui m'aide parce que je suis aveugle et handicapé. Il a dit, je veux changer ma condition, je veux changer de vie. Dans le même ordre d'idées, je voudrais qu'on puisse prendre ensemble aussi Jean 5. Et que Dieu nous aide à démonter tous les mécanismes qui des fois nous bloquent et nous empêchent de recevoir le miracle de Dieu. Dans Jean 5, c'est près de la porte des brebis. Il y a une piscine qui s'appelle Bethesda. Il y a beaucoup de malades qui sont là. De temps en temps, il y a un ange qui vient, un miracle. Et il nous est dit, au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alors, cette précision de la Bible doit nous encourager, parce que nous avons trop souvent, quand on souffre, on a l'impression que c'est interminable. Chaque minute de souffrance, on a l'impression que c'est interminable. Et sur l'ensemble de notre vie, si on regarderait, on dirait, bon, finalement, c'était pas longtemps. Prenez l'histoire de Job. L'histoire de Job, beaucoup de gens se rappellent de Job comme quelqu'un qui a souffert, qui a vécu quelque chose qui était pénible, qui était difficile. Mais sur l'ensemble de sa vie, on voit qu'il y avait une période où Dieu le bénissait, il a eu une période de maladie, une période où il a été restauré. Donc, des fois, on a une vue qui peut être erronée sur la réalité. Mais là, c'était pas une vue d'esprit seulement, c'était pas juste une illusion. Il était malade depuis 38 ans. Donc c'est une réalité. Et donc ça doit encourager aussi toute personne qui souffre depuis longtemps. Ce n'est pas parce qu'on souffre longtemps que ça diminue, entre guillemets, nos chances de recevoir un miracle de Dieu. D'accord? C'est bon, c'est pas parce que nous on n'essaie pas de se dire, bon, si la maladie n'est pas trop grave, si ce n'est pas trop avancé, Dieu peut encore faire quelque chose. Par contre, si c'est une phase terminale, alors on ne peut plus rien faire. Parce qu'on va y arriver dans un instant. Il y a des situations où ça semble extrême. Et on a tout ce qu'il nous faut dans les évangiles. D'accord? On a tout ce qu'il faut. Chaque circonstance que nous pouvons expérimenter, on a déjà des illustrations de gens qui ont vécu les mêmes choses que nous et qui sont passés par là. Et là, donc, même dans cette situation, l'homme qui est paralysé depuis longtemps, Jésus sait sa condition. Il dit, veux-tu être guéri? Le malade dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc Jésus évalue dans quelles circonstances. Maintenant, cet homme imagine que les choses pourraient se passer pour qu'il y ait une transformation de sa vie. Il attend encore le miracle de l'ange qui agite l'eau. Il ne peut pas imaginer autre chose. Ici, il ne nous est pas dit qu'il a entendu parler de Jésus de ses miracles. Mais le Seigneur vient auprès de lui Mais à un moment donné, pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, il n'est pas dit « et Jésus le saisit, lui donne la main pour l'aider à se lever » ou « le touche et puis une force sort de Jésus et l'aide à se maintenir sur pied ». Il y a un dernier pas que Dieu n'accomplit pas. Et c'est pour moi, chaque fois ça peut être différent, mais chaque fois il y aura la part de Dieu, la part de l'homme. Et c'est à nous de découvrir quelle est ma part que je dois faire. Mais ici, Jésus, une fois de plus, il guérit par quel moyen ? Par sa parole. Il lui dit juste, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est tout ce qu'il lui dit. Il ne le touche pas, il n'agite pas la main, comme Naaman le Syrien pensait que le prophète allait faire un geste. C'était pas ça. Donc, il ne lui donne pas la main, comme il a fait avec la belle-mère de Pierre. Il lui dit là-bas, il avait saisi la main. Il n'a pas fait des choses comme il a fait avec d'autres. Une fois, il avait fait de la boue avec la salive, l'a mis sur les yeux. Donc, cette fois-ci, c'est juste cet ordre. Lève-toi, des choses qu'il ne pouvait pas faire normalement. Et cet homme, il a pu se lever, mais je suis persuadé, ce n'était pas automatique. Il s'est pas levé comme un robot. Maintenant, la force de Dieu le saisit, le lève. Il y a dû y avoir quelque chose en lui qui a fait que il voulait se dresser, il voulait se hisser, il voulait obéir à cet ordre. Et c'est au moment où il a fait ça que quelque chose s'est produit. Il nous a dit, aussitôt, cet homme fut guéri. Quand il a reçu dans sa tête d'abord l'ordre, ensuite c'est venu dans son cœur, lève-toi, prends ton lit et marche. À ce moment-là, et ça c'est important, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Il a pu voir, il a pu se voir se lever, il a pu se voir prendre son lit, il a pu se voir en train de marcher. Et c'est cette foi qui a jailli dans son cœur qui a fait qu'il était capable d'être guéri et de recevoir. Il y a une part, d'extérieurement ça semble peut-être pas grand-chose, mais c'est une part réelle. Donc je vous encourage, relisez les histoires de la Bible, les histoires de guérison, les histoires de miracles, et étudiez, apprenez-en quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Qu'est-ce qu'était la part de Dieu? Quelle était la part de l'homme dans cette affaire? Alors quand je dis chacun a fait sa part, bien sûr il y a eu des exceptions. Lazare dans le tombeau, quand il était mort, il n'a pas mis sa foi en action. Ça, c'est évident. Et donc, mais ça ne démonte pas notre foi, mais ça montre qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre s'est tenu pour lui. Et c'était sa sœur. Et il est allé auprès de Jésus, lui a parlé. Mais là encore, Jésus est venu là où ils étaient. Mais il n'est pas allé directement au tombeau. Il a sorti Lazare, il l'a mis debout et il a dit, maintenant tu vis à nouveau. Il y a eu, on ne prend pas le temps maintenant de voir le détail de cette histoire, mais il y a eu plusieurs choses où il y avait la part de Dieu. Et la part de Dieu, c'était aussi quand Jésus a prié, en disant, Seigneur, je te remercie, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Alors que personne à ce moment-là n'a vu quoi que ce soit. Mais pour lui, c'était déjà fait. Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, il est complètement en dehors de notre histoire et de notre temps. Il est au-dessus de ça. C'est le Dieu éternel. Éternel, c'est celui qui est hors du temps. Aussi d'autres histoires, le paralytique qu'on a passé par le toit, il n'a pas fait grand-chose, apparemment. Mais ses amis se sont tenus en sa faveur et l'ont aidé. Mais ensuite, Jésus a dit, il nous a dit, voyant leur foi, la foi de tous, le paralytique, il ne nous a pas dit qu'il était muet. Au moment où ils l'ont pris par le lit, il n'a pas dit, non, je ne veux pas. Apparemment, sa foi était quand même conjuguée à celle de ses amis qui l'ont transporté. Peut-être même c'est lui qui a dit « Emmenez-moi jusque vers Jésus ». Mais ça, nous ne le savons pas. Nous voyons juste, voyant leur foi. Et que Jésus avait vu un moment que cet homme, au fond de lui, il désirait être pardonné de ses péchés. Et ça aussi, c'est dans le domaine de la foi. C'est pas peu de choses. Alors, voyons encore, simplement pour illustrer, sans rentrer dans les détails, le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est l'histoire du chrétien qui s'éloigne de son père parce que il pense qu'il saurait mieux que Dieu gérer les choses du royaume de Dieu. Parce que c'est un petit peu ça. Et donc, il s'aventure dans toutes sortes de directions que son père n'aurait pas souhaité pour lui. Et à un moment donné, il se trouve misérable, loin de la présence de Dieu. Et donc, l'idée du Père céleste, c'est de nous montrer un Père aimant, toujours prêt à accueillir de nouveau. Mais il ne nous est pas dit, et son Père est allé le chercher là où il était, au milieu des cochons, et lui a la sermonné, lui a dit, maintenant tu dois revenir, etc. Non, il est dit que le Père, sa part, c'était, il l'a élevé comme fils, il l'a donné comme héritier, il lui a donné la liberté de faire ce qu'il voulait de son héritage, et il lui a gardé une place. Il a gardé cette place. Il n'a pas dit maintenant, on considère qu'il n'est plus là, et puis c'est terminé. Cet enfant n'existe plus pour moi. Des fois, on voit dans des familles des drames familiaux. Et alors, c'est comme si mon fils était mort. Maintenant, n'existe plus. On se parle plus jamais. Donc, c'est pas cette attitude. Par contre, il a fallu que le fils fasse sa propre démarche intérieure. Il nous a dit, il est rentré en lui-même. Nous avons tous besoin de rentrer en nous-mêmes, d'avoir des moments où on est vraiment, maintenant je suis honnête avec moi-même, avec Dieu, je lui parle, je dis, où est-ce que j'en suis, et je fais le point, et alors il réfléchit, il dit, même les serviteurs dans la maison de mon père, ils ont une situation plus enviable que ce que je suis en train de vivre, je vais donc revenir vers mon père, et c'est là aussi que nous pouvons avoir cette exhortation en disant, quand on a un problème, il faut courir vers Dieu, pas loin de lui. Adam et Ève ont aussi eu un problème sérieux parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont perdu la gloire de Dieu et ils ont voulu se cacher loin de Dieu. Mais ça ne marche pas. Personne ne peut se cacher loin de lui. Mais on peut venir à lui et on a l'illustration de ce Père qui ouvre ses bras, le saisit, le restaure, fait même une fête pour lui en son honneur parce qu'il considère qu'il était mort et il est revenu à la vie. Donc là encore, ayons cette vision. Selon Ésaïe 53, il nous est dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. C'est pas seulement une fois. Moi, je dis, c'est pas seulement pour des gens. D'abord, on est païens, pécheurs, perdus. Et puis, on vient à Jésus et maintenant, tout est bien. Mais quand on est à lui, on a aussi des moments d'égarement. N'est-ce pas vrai? Vous connaissez-vous des gens qui marchent 100% en communion avec Dieu depuis qu'ils sont nés de nouveau, ils n'ont plus aucune faute, ni aucun faux pas, ni ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut entretenir la médiocrité ou dire c'est normal finalement qu'on n'est pas meilleur que les autres. Non, on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais il nous est possible, à nous aussi, de ne pas recevoir, comme on a vu, recevoir les instructions de Jésus, d'être dans la tourmente de toutes sortes de choses. Mais pour nous, maintenant, fixons nos regards sur le fait que lui a fait la plus grande part. Alors, la plus grande part, il est venu selon la prophétie. Il n'est pas venu seulement de Galilée jusqu'à Jéricho. Il est venu de beaucoup plus loin, en fait. Le ciel, c'est un peu plus loin que la distance de Nazareth jusqu'à Jéricho. Dans Ésaïe 8, 23, il y a cette promesse qu'on va peut-être entendre citer du temps de Noël dans les églises. Mais j'ai commencé un peu plus haut que le verset qu'on cite habituellement seulement. Un fils nous est donné, un enfant nous est né. Il nous est dit au verset 23, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » C'est intéressant, non? Ce verset, c'est celui qui précède l'annonce de la venue du Messie. Et je trouvais comme la parole de Dieu peut être actuelle de nouveau. Quand moi je regarde le monde autour de nous, je pourrais le décrire comme ça. Les ténèbres règnent sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Vous trouvez que c'est une bonne description? Alors, mais, là, c'est là que le mais est bien placé. J'aime quand il est placé comme ça. Parce qu'il y a des gens qui, oui, Dieu est grand, mais voilà, j'ai mes problèmes. Non, ça c'est prendre les choses à l'envers. Il dit, mais, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. On peut même le proclamer sur quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un qui est dans les ténèbres ou qui est angoissé, dire non, les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi ou sur moi. Parce que la terre, c'est nous. Nous sommes de la terre. Nous avons été créés à partir des éléments qui sont sur cette planète Terre. L'homme a été tiré de la poussière. Quand vous voyez le mot terre, des fois, vous pouvez y mettre un être humain. Nous avons été issus de la terre. Dieu a soufflé un esprit de vie en nous. Mais il nous a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur moi, même si maintenant j'ai des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre nous-mêmes, ou ici dans le contexte, c'est le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mais ça peut être, si les temps passés ont couvert d'opprobre ta vie, par exemple. Alors écoutez bien, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Donc il nous a dit, s'il y a un temps d'angoisse et de ténèbres, il y a un temps où la lumière va apparaître. C'est l'annonce prophétique de la venue de Jésus. 9.1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Parce que Zabulon et Nephtali n'étaient pas non plus des super tribus. Il y avait cette hiérarchie de qui est la tribu la plus sainte, comme il y a des hiérarchies parmi les chrétiens où certains croient qu'ils sont super spirituels, super chrétiens, et demi-chrétiens, chrétiens de nom, chrétiens nés de nouveau, authentiques, baptisés du Saint-Esprit ou non, ou que sais-je encore. Et c'est tellement compliqué, mais pour nous c'est très simple. Quelle que soit la situation qui a été, ténèbres, angoisse, opprobre, tout ce que vous voulez, il y a maintenant une grande lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Il est la lumière du monde. Il est notre lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et là, ça prend du sens pour moi. Là, c'est pas, je suis désolé, c'est pas seulement le petit Jésus dans la crèche, c'est plus que ça. On est content qu'il soit venu sous cette forme que Dieu a... on ne sait même pas si Dieu a choisi qu'il soit né comme ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais il se trouve que ce jour-là, il n'y avait pas de place à l'autel. Mais des fois, on veut donner une plus grande symbolique à certaines choses. Mais comment est-ce qu'on va l'appeler? Quel sera son nom? Bien sûr, nous, on sait que c'est Jésus. Mais voilà des attributs. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et là, on pourrait passer du temps à parler de chacun de ces mots individuellement pendant longtemps. Admirable. D'abord, comme je l'ai dit, nous n'avons pas ici une religion avec plein d'autres de choses de toutes sortes et qui soit fait en fonction de l'homme. Et puis, parmi toutes celles, on a Jésus. Non, il a la place principale. Il a la place principale pour le salut, pour la puissance de Dieu qui se manifeste, pour que le Saint-Esprit soit répandu. Son rôle est essentiel pour le retour, pour les événements de la fin du temps et tout. Et donc, il est à la droite de Dieu. Toute domination, tout pouvoir lui a été donné. Il est admirable. Alors, il faut l'admirer. Il faut prendre du temps. On peut admirer tellement d'autres choses, mais il est admirable. Il faut qu'on demande à Dieu un nouveau regard sur Jésus lui-même, pour qu'il reprenne sa place. Admirable. Pour moi, admirable, ça veut dire aussi adoration. Adoration où il n'y a plus rien d'autre qui existe. Le reste ne m'intéresse plus. S'il n'y a que lui. Comme certains, quand Jésus a exercé son ministère, sont tombés à ses genoux. Mon Seigneur et mon Dieu. Ils s'en fichaient complètement de ce que vont les gens, que vont penser les gens. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Ils ne voyaient qu'une seule chose. C'est lui. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Conseiller, recevoir ses instructions à nouveau, recevoir le conseil de Dieu. Dieu puissant, il est capable, il peut transformer une circonstance, une situation. Père éternel, il nous conduit lui-même vers le Père, mais il est aussi un Père pour nous. Un Père, c'est quelqu'un qui est protecteur, qui sait prendre soin, comme... Jésus, la plupart de ses disciples étaient même plus âgés que lui. Pourtant, il les appelait mes petits-enfants. Et donc, parce qu'il y avait cette relation où il avait cette position de père spirituel. Et il est aussi comme un père éternel. Et le prince de la paix vient tout à la fin, bien que nous ayons besoin de paix. S'il y a des choses qui ne sont pas en place, on ne reçoit pas la paix de Dieu non plus. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'on ne peut pas dire je veux la paix et puis on ne fait pas les choses dans l'ordre, reçoit son conseil, de le mettre en premier, de voir sa puissance à l'œuvre quand on a on a des soucis ou des problèmes, on ne peut pas expérimenter vraiment le prince de la paix. Donc on est conduit vers le Père, non seulement Jésus est le Père éternel, mais on a vu aussi que c'était pas la finalité. La finalité, c'était d'avoir cette communion avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et là, on peut se rappeler, donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a de la place dans la maison du Père. Il y a la fête pour celui qui reprend sa place. Jésus avait dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Je vais vous préparer une place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Beaucoup ont interprété, et là on voit tout à fait les idées humaines qui se manifestent. Plusieurs demeures dans la maison du Père, ça veut dire, bon, les catholiques, ils auront leur demeure, les protestants auront la leur, s'il y en a une pour les pentecôtistes, les baptistes, parce que déjà comme ça, on supporte pas d'être assis les uns à côté des autres, à leur penser pour l'éternité. Mais donc toutes ces idées, ces pensées sont erronées. C'est juste l'imagination des gens, parce que ici, plusieurs n'a pas été donné dans le sens de différentes, plusieurs maisons. Là-bas, il y aura une rouge, une blanche, une jaune, une bleue. Plusieurs, ça veut dire plusieurs, ça veut dire beaucoup. Plusieurs, ça veut pas dire trois ou quatre. Hein? Là, je peux pas dire ce matin, nous étions plusieurs. Non, ce matin, nous sommes quelques-uns. Mais quand on dit plusieurs dans la Bible, c'est qu'il y en avait plusieurs. Et souvent, plusieurs, c'est il a multiplié le pain pour plusieurs personnes. Donc, c'est des centaines, des milliers. Mais c'est l'idée que Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Ça veut dire qu'il y a toujours de la place pour chacun. Et je vais vous préparer une place pour vous. Il y a une place pour toi. Mais plusieurs, dans le sens de beaucoup, c'est encore une fois la façon dont Dieu nous parle pour nous dire, les choses du royaume des cieux ne sont pas comme celles qui se passent sur la terre. Parce que ici, on n'utilise pas le mot plusieurs souvent par rapport à la situation du monde. Qu'est-ce que vous entendez comme mot? Pénurie, crise, manque. On a l'impression que Dieu, il a mal calculé son coût parce qu'il nous a mis sur une planète Terre où assez rapidement, ça ne suffirait pas pour tout le monde. Mais là encore, c'est parce qu'on voit la chose à un moment précis de l'histoire. Et comme nous sommes à la fin des temps, et comme tout s'accélère, on arrive à un moment où même les gens intelligents se rendent compte qu'en calculant, ça ne peut pas toujours continuer ainsi. Mais c'est la réalité. Et donc, quand vous voyez que malgré l'urgence climatique, on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire que le monde est dans un train qui est en train de dérailler, qui roule à vive allure, mais on ne freine pas, on ne s'arrête pas, on continue. En pensant, je ne sais pas quoi, peut-être après moi le déluge, peut-être c'est ça qu'ils pensent quelques-uns, mais en tout cas, ça ne peut plus continuer comme ça. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Dieu a prévu quelque chose. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors donc, il y a des choses où le monde nous dit qu'il faut économiser, économiser, économiser. Je suis tout à fait d'accord de ne pas rentrer dans le gaspillage, de recycler, de faire tout ce qu'on peut. Mais il y a des choses que nous ne devons pas économiser. C'est de faire le bien. Parce que nous sommes destinés à ça et ça montre la nature de notre Dieu. Nous servons et connaissons comme Père le Dieu de l'infini. Il est infini en tout. Et Éphésiens 3:20 dit « Dieu peut » par la puissance qui agit en moi, faire infiniment au-delà de tout ce que je demande et de ce que je pense. Je suis donc capable de faire le bien parce que dans un monde en crise, alors on vous parle aussi des œuvres sociales, des grandes causes de lutte contre la maladie, de tout ce qui... Donc il est toujours la question, est-ce que les gens vont quand même donner ou est-ce qu'ils ne peuvent plus à cause de la crise? Mais nous sommes dans cette situation où si nous nous entretenons du vrai Dieu tel que nous le connaissons, j'aime cette expression de Jim Caseman, il a dit « Dieu n'a pas perdu la recette de la manne ». Il a toujours encore, donc il serait capable de faire ça. Ou alors il pourrait multiplier le pain ou multiplier le poisson. Il pourrait faire que l'huile dans le vase continue de couler. Ou alors il pourrait faire que la farine dans le pot ne se vide pas. Puisque tout ce qu'il a fait est pour nous un encouragement qu'il est capable. Etc., etc. Mais combien d'exemples on a dans la Bible? Mais notre foi ne va s'entretenir et se nourrir que si on fixe nos regards sur ça. Sinon, ben on va être nourri des autres choses. Pénurie, crise, économie, et c'est une réalité. Mais par exemple, même pour l'histoire du travail, c'est peut-être difficile pour quelqu'un qui cherche. Mais ce n'est pas une question du nombre d'emplois qui sont disponibles. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des gens qui cherchent du travail, mais il y a aussi des employeurs qui cherchent des employés. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas du tout de solution. Et à plus forte raison pour nous de dire, oui, c'est possible de croire que Dieu peut pourvoir à tout. Maintenant, terminons juste par cette pensée. Dans Romains 13, il nous dit, rendez à chacun ce que vous lui devez. Placez-vous dans votre univers. Comme quand vous regardez le plan d'une ville ou d'un grand immeuble, des fois, vous avez un point rouge, vous êtes ici. Enfin, vous êtes un peu égaré, hein. Alors, vous êtes ici. Simplement, placez-vous dans cet univers qui est le vôtre et regardez où est-ce que j'en suis maintenant dans cette dimension de ce que Jésus veut faire, de la plus grande part qu'il a faite, le fait qu'il y ait plusieurs demeures, il y a l'abondance dans la maison du Père. Et maintenant, simplement de voir quelle est la part que je dois donner dans ce que je fais. Alors, pour la localisation, le fameux « vous êtes ici », situez-vous. Où es-tu ? Donc, on peut poser la question « où es-tu ?» Élie, homme de Dieu, on lui a posé cette question un moment. Dieu lui a posé. Il dit « où es-tu, Élie ?» Il était découragé dans son trou, dans sa cave. Vous pouvez relire ça dans 1 Roi 19, je crois. Où en es-tu dans le plan de Dieu ? Est-ce que tu es en dehors ? Ou est-ce que tu es en route ? Est-ce que tu es à la première étape ? Est-ce que tu as achevé la course ? On a un petit livre aussi qui dit « De retour dans la course » qui reprend un peu cette thématique de bah, des fois on croit qu'on a échoué, mais il y a une capacité de rebondir en Dieu et d'avoir de nouveau une chance. Ce serait une illustration à prendre par rapport à Barnabas et Jean, surnommé Marc. À un moment donné, ils les avaient abandonnés dans leur voyage apostolique. Puis ils voulaient de nouveau venir avec eux. Paul a dit non, on peut pas l'emmener, on peut pas compter sur lui. Barnabas a dit si, il faut lui donner une chance. Finalement, ils se sont séparés sur ce point. Et plus tard, Paul écrit, envoie-moi Jean, surnommé Marc, parce qu'il m'est utile pour l'œuvre du ministère. Donc, il était de retour dans la course. Une bonne chose de savoir que c'est possible. C'est pas disqualifié, fini pour toujours. Alors, voyez, situez-vous. Première situation, c'est est-ce que vous honorez Dieu en lui donnant la première place ou non? Est-ce que vous faites du premier amour votre quête principale? Si vous ne le faites pas, vous devez le faire. Vous l'avez entendu des centaines de fois. Une fois de plus, nous devons nous exhorter à ça. Le premier amour est notre quête principale. Tout le reste est absolument secondaire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est principal. D'abord, premièrement. Vous vous rappelez les excuses de ceux que Jésus avait... Oui, Seigneur, je te suivrai, mais je veux d'abord faire autre chose. Le d'abord, c'était chaque fois une excuse, mais ça ne va pas. Et donc, on a des choses à faire dans la façon dont nous nous plaçons dans notre propre univers. Il y a des consignes très simples de la Bible, comme « honore ton père et ta mère ». Ça a une influence sur notre vie, Éphésiens 6, parce que c'est le commandement avec une promesse. Honorer les anciens, ceux qui sont ministres de l'Évangile, ben ça nous place dans un contexte de « on sait comment ça fonctionne dans le corps de Christ ». On a aussi une façon où nous pouvons voir quelle est notre action dans le monde. Par exemple, dans Proverbe 3, il est dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a le droit si tu as le pouvoir de l'accorder. » Donc, ça dépend. C'est celui qui en a le droit, ça dépend si j'ai le pouvoir de l'accorder. Et donc aussi, des fois, ça peut être, comme on l'a cité tout à l'heure dans Actes, c'est pas forcément de l'argent, comme les disciples ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc, en conclusion, je dirais, ne posons pas toujours cette question. Comme Élisée, ils avaient traversé le cours d'eau, Élie avait jeté son manteau, le cours d'eau s'est écarté. La puissance de Dieu s'est manifestée. Imaginez ça, une rivière qui s'arrête de couler. On passe à sec. Pour nous, c'est presque inimaginable, hein, mais la Bible nous dit que c'est comme ça, alors on le croit. Donc, on passe à sec, la puissance de Dieu se manifeste. Et ensuite, Élie est enlevé au ciel. Élisée ramasse son manteau. Il fait le chemin inverse. La rivière avait repris son cours normal. Et il dit cette chose, il dit, où est l'Éternel Dieu d'Élie? Et la même chose se reproduit. Donc, on voit là, les disciples qui étaient sur le bord, les fils des prophètes, ils ont vu, maintenant la puissance de Dieu se manifeste sur Élisée. Et donc, mais plutôt que de poser cette question, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Posons plutôt les questions, où sont les Élie de Dieu? Et sachons chacun répondre pour ça. Comme Ésaïe, quand il a dit, mais qui enverrai-je? Il dit, me voici, envoie-moi. Ça doit être maintenant le désir de chacun d'entre vous de dire, me voici, envoie-moi, me voici, utilise-moi. Dans les prochains jours, aujourd'hui même, je vais peut-être pouvoir faire du bien à quelqu'un par une parole d'encouragement, par quelque chose, aider quelque part. Faisons quelque chose. Peut-être une prière pour quelqu'un, ça peut être aussi simple que ça. Ça vous semble simple, ça a peut-être une conséquence importante dans la vie de cette personne. Donc ne demandez pas où est l'Élie de Dieu. Dieu est là, il est en vous, il est au présent. Mais vous soyez des personnes qui relevez le manteau. Le manteau, c'est l'onction, c'est le ministère. Mais quelle audace de la part d'Ésaïe de dire « me voici, envoie-moi ». Tu veux quelqu'un de qualifié, regarde Dieu, je suis là, tu peux être rassuré. Tu as maintenant quelqu'un que tu peux utiliser. Mais regardons d'abord que avant d'avoir ce zèle, il s'est passé une transformation. Il a eu la vision céleste. Il a vu Dieu sur son trône. Et nous n'avons pas besoin d'avoir une vision spirituelle pour ça. Notre vision peut se développer au travers de ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Mais à un moment, on voit Dieu sur son trône. L'Éternel règne, on le chante, on le croit. Donc, il y a une vision céleste. Il y a aussi une repentance parce qu'il se rend compte devant la sainteté de Dieu. Là, je ne peux pas, moi, m'en approcher. Mais en même temps, on voit que la purification, elle vient du ciel. Le feu sur l'autel, les pincettes que utilise l'ange pour prendre ce feu qui brûle et qui purifie Ésaïe pour le rendre capable. Donc si nous sommes capables, c'est que Dieu nous a rendus capables. Notre capacité vient de Dieu. Et Dieu ne cherche pas des gens qualifiés. Il cherche des gens disponibles. Après, il les qualifie. Alors nous, on dépend de lui. On fait notre part, mais on compte aussi sur sa part à lui. Tu es d'accord avec ça? Amen. Alors on va prier ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même compassion, la même puissance de Dieu. Et tu es le même dans tout ce que nous avons vu que tu as fait dans ta parole, tous les miracles qui ont eu lieu, de ceux qui ont osé croire l'impossible, l'incroyable. Et Seigneur, nous voulons te donner l'occasion de te servir de nous. Pour cela, nous te remercions en cet instant même de nous fortifier par ton Saint-Esprit, de mettre en nous le zèle, le feu de Dieu dont nous avons besoin, de restaurer tout ce qui doit être restauré, de pouvoir, Seigneur, aussi nous bénir dans tout notre être, esprit, âme et corps, pour que nous soyons capables. Nous le déclarons ensemble, notre capacité vient de Dieu. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.